Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21, du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaëlle et je suis la maman d'Arthur et de Charles, qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire et m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Un an. Cela fait déjà un an que ce podcast mettant à l'honneur la trisomie 21 existe. Un an, 12 épisodes et 12 merveilleuses rencontres. 12 récits autour d'un handicap aussi connu que méconnu dans notre société. Et c'est sans le savoir que je lançais le tout premier épisode à l'occasion de la journée nationale de la trisomie 21 en France, le troisième dimanche de novembre. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter Amandine et son extraordinaire travail autour de la sensibilisation à la différence au sens large du terme. Qu'il s'agisse d'un handicap visible ou invisible, d'une particularité physique ou émotionnelle. Comme le raconte Amandine dans les histoires écrites par sa marionnette, nous sommes tous différents et nous avons besoin des richesses apportées par les différences de chacun pour créer un monde dans lequel il fait bon vivre. Sans plus attendre, écoutons-la nous parler de son parcours de vie personnel et professionnel et apprenons à ouvrir nos cœurs à la différence. Bonjour Amandine, comment vas-tu ?
Bonjour Raphaël, ça va bien?
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour nous parler de toi déjà et de ton parcours à la fois personnel et professionnel qui sort de l'ordinaire, on va dire. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et nous présenter aussi l'extraordinaire personne qui fait partie de ta vie?
Oui, bien sûr. Alors, d'un point de vue personnel, je m'appelle Amandine, j'ai 33 ans, arrivé à un moment donné, on compte plus. Sur mes goûts, je suis fan de chocolat et de thé, je suis la maman d'Owen et de Joey, donc qui ont 8 ans et bientôt 4 ans. Je suis porteuse de différences invisibles, que l'on peut étiqueter comme zèbre hypersensible. Donc après, bon, voilà, les étiquettes, je m'en fiche, mais je sais que maintenant que ça se décolle. C'est juste que voilà, le savoir, ça me permet en fait... une meilleure connaissance et compréhension de ma personne et de la particularité de mon cerveau, en fait.
Zèbre hypersensible, qu'est-ce que ça veut dire exactement, pour ceux qui n'y connaissent pas ?
Eh bien, en fait, c'est juste que mon cerveau fonctionne de manière atypique, plutôt sur l'hémisphère droit, donc qui concerne la créativité, tout ce qui touche aux émotions. C'est-à-dire que, voilà, pour citer plutôt des exemples, je vais ressentir les choses de manière assez exacerbée. C'est-à-dire que je vais entendre très fort dans certaines situations, je vais sentir, je vais voir des choses que d'autres ne prêtent pas forcément attention. Voilà, je vais vraiment être dans les détails. Et puis sinon, après, ça va être dans la pensée où ça n'arrête pas. C'est comme s'il y avait un petit vélo qui tournait, c'est des pensées en arborescence. C'est vraiment quelque chose à part qui apporte des richesses, qui apporte une grande créativité, une grande imagination, des ressources, un côté de perfectionnement. Ça apporte vraiment beaucoup de choses, mais à contrario, ça apporte aussi des choses qui sont un peu plus compliquées à vivre au quotidien. Du fait, par exemple, des réactions où je peux prendre les choses un peu à cœur ou mal réagir à certains mots ou à certains comportements que je vais percevoir, et l'entourage qui n'est pas forcément sensibilisé plus que cela va pouvoir peut-être mal réagir et ça va apporter de la souffrance en fait, parce que du coup quand on a cette hypersensibilité, il y a un fort besoin de compréhension, et quand il n'y a pas cette compréhension là, ça apporte vraiment du mal-être en fait. Il y a un besoin d'être entendu, reconnu, on réagit extrêmement mal à l'injustice. Donc dès lors qu'il y a des situations en fait d'injustice autour, je vais presque en faire une affaire d'État. Enfin, c'est-à-dire que des gens que je connais pas, je vois une situation là dans la rue, mais c'est pas possible, quoi. Ça va me retourner le cœur et je vais être obligée d'intervenir, ou plutôt que ça me concerne pas, je trace ma route, basta. Non, c'est... Mais du coup, c'est plein de petites choses comme ça qui, au final, ça peut
Oui.
Vraiment être pesant, bah, c'est pesant à vivre au quotidien. Donc voilà, il faut réussir à trouver des astuces pour se détacher un peu de cette sensibilité en fait exacerbée. Et après voilà, ça se fait. Mais du coup, de le savoir, ça
C'est
permet vraiment,
important.
voilà, de comprendre en fait, voilà, bah, comment ce cerveau il fonctionne et puis bah de voilà d'apprendre à vivre avec. Donc après voilà, je l'ai découvert sur le tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais.
Tout à fait, c'est ce
Voilà.
qu'on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc tu nous as dit que tu étais porteuse donc d'une différence invisible, mais est-ce que tu peux nous parler donc de la personne de ta famille qui est porteuse d'une différence visible?
Oui. Eh bien, il s'agit de mon petit frère qui s'appelle Florent et qui est porteur de ce chromosome en plus qui se voit pas pourtant.
C'est vrai.
Mais voilà, donc il a 31, ouais, c'est ça. Avec les âges, je bloque, ouais, c'est ça, 31 ans. Et puis bah, aujourd'hui, Florent, il vit en foyer d'hébergement, il travaille en ESAT, actuellement dans l'atelier ménage. Où il s'occupe de l'entretien des locaux de l'ESAT et il est tout à fait épanoui. Donc voilà, il pratique ses activités au quotidien. Là en ce moment, il fait du hip-hop. Il est passionné de musique, de chansons. Donc voilà, c'est tout le temps la fiesta chez lui. Du sport, du multisport. Voilà, il est heureux dans sa vie. Voilà, c'est mon frangin, mon petit rayon de soleil.
Et oui, et donc vous n'avez pas beaucoup d'écart, 2 ans, c'est ça. Est-ce que tu te souviens de comment tes parents à l'époque ont vécu ce diagnostic de trisomie 21, ou peut-être vous en avez parlé plus tard?
Alors oui, il y a eu des discussions un peu plus tard, parce que c'est sûr que quand Florent est né, bon, ben moi j'avais 2 ans et demi, donc
Oui.
j'ai très peu de souvenirs, bien que j'ai un souvenir assez fort quand même. À l'époque, mes parents m'ont expliqué la différence de mon petit frère, et c'est surtout qu'ils voilà, ils m'ont dit des mots qui sont restés ancrés en moi, ces mots qui sont, bah voilà, ton petit frère n'est pas comme les autres, et il va falloir faire attention à lui, et puis voilà, en prendre soin, l'accompagner. Et voilà, ça va bien se passer, mais il va vraiment falloir être vigilant. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment resté ancré en moi. Et je continue de conserver ces mots et de les appliquer au quotidien encore aujourd'hui. Après, oui, on a eu l'opportunité d'en rediscuter un peu plus tard. Et donc, c'était surprise, hein. Et voilà, mes parents n'étaient pas du tout au courant. Ils sont tombés des nues. Donc après, voilà, on parle aussi d'une autre époque, une autre génération. Et voilà, j'avais des grands-parents très ancienne génération, justement, où, voilà, qu'on eut des paroles maladroites. Bah, de toute façon, il existe des institutions, on va pouvoir le placer, le cacher, on va faire ce qu'il faut. Il y a eu pas mal de paroles maladroites autour de la naissance de mon petit frère, mais qui se sont rapidement essoufflées parce que voilà, Florent, bah, il est arrivé, oui, avec son chromosome en plus, mais il est arrivé comme un bébé, entre guillemets, ordinaire, enfin, sans difficulté.
Il était en bonne santé.
Exactement, il n'y avait rien. Voilà, après ça a coulé tout seul. Voilà brièvement, tu vois, le peu de souvenirs que j'ai.
Et toi, vivre ton enfance et ton adolescence avec lui, est-ce que tu as un peu plus de souvenirs?
Ah oui, ça, bon, ça, des souvenirs, il y en a plein, il y en a plein. Bah, après, ça commence dès qu'on était enfant, donc on a fait nos années maternelles ensemble, hein,
Eh oui, 2 ans d'écart.
voilà, déjà, moi, je ressentais déjà la différence. Ou peut-être que c'était ces paroles que j'ai entendues quand j'étais petite et que j'ai vraiment prises à cœur. Mais en tout cas, voilà, quand on était dans la cour de récréation, moi, j'allais pas jouer avec les copains et les copines. J'étais avec Florent et puis je m'occupais de lui, voilà, pour l'accompagner. J'étais derrière lui pour qu'il monte au toboggan, qu'il descende. Et puis voilà, et puis je faisais attention à... Il fallait pas regarder mon petit frère de travers, quoi. J'étais vraiment aux aguets et je prenais
Protectrice.
voilà, extrêmement protectrice et... Je le faisais parce que mon frère, je l'aime comme une folle et que voilà, je voulais tellement son bien que je veillais au grain. Et donc voilà, j'ai ces souvenirs que quand on était petit, après, bon, nos chemins se sont séparés où, voilà, moi, j'ai pris le cursus de l'école élémentaire. Lui aussi, mais il a changé d'école. En fait, il a été dans une CLIS. Il n'empêche que, bon, on faisait du sport ensemble, du basket. Et c'était toujours, on a toujours une relation très fusionnelle. Pas besoin de se parler, en fait. Un regard, ça suffit pour se dire les choses et ressentir, en fait. C'est assez puissant. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui, magique.
Et est-ce que justement, tu avais l'impression d'avoir une relation différente à part qu'elle était fusionnelle, par rapport aux autres enfants qui pouvaient avoir un frère ou une sœur?
Eh bien, j'observais, oui, les autres familles. Et forcément, je voyais évidemment que mon lien avec Florent était complètement différent. Et j'en étais heureuse. Mais des fois aussi, eh ben, ça me faisait une petite pointe de tristesse parce que quand je voyais dans des fratries où les enfants étaient assez proches en âge, bah, ils pouvaient faire des choses comme, enfin, j'en sais rien, des jeux ou des choses que voilà, Florent ne pouvait pas, n'avait pas accès parce que voilà, en raison de la crise 2021, aujourd'hui Florent il ne lit pas, il n'écrit pas, enfin tu vois, donc du coup il y avait des choses que bah, non, il ne pouvait pas faire. Et c'est vrai que des fois je me disais, ah oh, mince, j'aimerais bien faire ce jeu-là avec Florent, mais c'est pas possible, ou tu vois, ou sortir, aller faire ce truc-là, ou et des fois oui, il y avait ce petit frein à cause du handicap, et où des fois voilà, ça pouvait m'apporter un peu de tristesse parce que j'aurais eu envie de me confier aussi à mon frangin, et puis d'avoir des conseils en retour. Alors je le faisais, hein, de me confier, et j'avais en retour des câlins, des bisous, mais des fois, bah des fois, tu vois, voilà, j'aurais bien aimé autre chose aussi. Mais après, Florent il m'apporte tellement au quotidien, il m'a tellement fait grandir en fait, que ce frère-là, mais oh là là, je le changerais pour rien au monde.
Et maintenant, justement, à l'âge adulte, comment a évolué votre relation alors?
Eh bien, c'est toujours pareil, hein. Il y a toujours ce côté fusionnel où on se voit régulièrement. Il vient passer des week-ends à la maison, et puis bah voilà, on fait nos petites activités, notre train-train, et puis bah voilà, c'est toujours du plaisir de se retrouver.
Et est-ce que tu as des responsabilités vis-à-vis de lui?
Il y a un tuteur du coup qui est là pour sécuriser voilà, le financier, etc. Puis bah, au foyer maintenant voilà, il y a une équipe éducative qui accompagne Florent. Et évidemment après bon voilà, nous les frères et sœurs, on est là aussi, on accompagne. Mais en effet voilà, moi ça me tenait à cœur qu'il y ait un tuteur qui soit là pour gérer bah, toute cette partie voilà, de finances, pour que ce soit carré, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et la relation voilà, de frères et sœurs aujourd'hui, c'est de s'assurer que Florent va bien, qu'il a tout ce qu'il faut dans sa vie.
C'est
Et...
super important pour lui.
Voilà.
Alors, grosse question là. Est-ce que tu as le sentiment que l'inclusion, elle est meilleure aujourd'hui pour lui que lorsqu'il était plus jeune?
Ouais, grosse question. Grosse question, parce que bah, je peux pas parler à sa place. Alors après, bon, la société évolue quand même. Maintenant, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot à faire. Ah, mais
Je pense aussi. Cette expérience de la trisomie 21, donc ça t'a forgé personnellement, mais pas que. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel?
on peut bien entendu en parler. On va faire un petit flashback bien des années en arrière, où du coup bah, j'ai commencé à travailler en tant qu'éduc en fait, donc pendant des années dans le domaine du handicap, donc en institution, bah, en IME, foyer d'hébergement. J'ai travaillé comme ça ouais, pendant 7 ans, mais toujours en CDD. La vie a fait que je suis tombée enceinte, et donc j'ai eu mon premier enfant, et en fait bah, je suis sortie de ce cercle des remplaçants. Et dès lors que voilà, tu sors de ce cercle des remplaçants, bah voilà, c'était compliqué d'y revenir. En fait, voilà, j'ai réfléchi à une reconversion professionnelle, et c'est comme ça que j'en suis venue à faire un bilan de compétences, et qu'au cours de ce bilan de compétences, il en est sorti un métier, le métier d'ambulancière. Voilà, parce qu'auparavant aussi, quand j'avais été sauveteuse en mer, tu vois, et donc du coup avec le métier d'éduc, en lien avec l'accompagnement, voilà, c'est ce métier-là qui est ressorti. Et donc je dis bon, ok, très bien, je retourne à l'école, et donc je me suis formée en tant qu'ambulancière, et ce métier, je ne l'ai pas exercé très longtemps, parce que, tout simplement, bah, je me suis fait agresser à l'arrière de l'ambulance par une patiente psy. Ça a été d'une violence assez extrême, où bah, voilà, j'ai failli y rester. Enfin, ça a été violent, et à l'issue en fait, de cette agression-là, donc voilà, j'étais vraiment pas bien. Mal en point, voilà, ça avait fait ressurgir pas mal de démons du passé, et puis bah surtout ça me renvoyait à cette vulnérabilité de la vie, que finalement bah voilà, je réalisais que elle ne tenait pas à grand chose cette vie, et que bah, il était peut-être temps aussi de voilà de vivre maintenant et de vivre ses rêves. Et un rêve en fait, j'en avais un, juste pour faire du lien avec quand j'étais éduque, que je m'étais formée en fait à conter des histoires. J'adorais ça, et notamment conter des histoires pour le public en situation de handicap.
D'accord.
Et je m'étais toujours dit hein, qu'un jour, eh bien, je raconterais mes propres histoires. Mais je ne savais pas comment faire, en fait. Tu vois, je trouvais le projet un peu farfelu. Et donc, j'avais laissé tomber cette idée-là. Mais là, après cette agression, je me suis dit, c'est le moment. Tu ressors ce vieux rêve-là et je sais pas ce que je vais en faire. Mais en tout cas, voilà, j'ai creusé. Et donc, voilà, je me suis fait accompagner aussi pour pouvoir réfléchir. Et là, eh bien, je me suis rendu compte qu'il me manquait des outils d'écriture. Parce que quand on est éduque, on écrit beaucoup, mais c'est voilà une autre forme d'écriture. C'est comme ça que j'en suis venue à faire une formation d'écrivain dans une école suisse pendant 2 ans, pour apprendre à écrire un livre, à affirmer un style d'écriture, à voilà réussir à sortir un livre, voilà, à connaître vraiment tous les rouages de l'édition, comment est-ce qu'on s'y prend, toutes les lois, etc. Enfin tout. Voilà. Et donc c'est là-bas notamment qu'est né le projet de la trilogie Le Moustique Trisomique. Et en parallèle de cette formation, je me suis dit, bon, c'est très bien d'écrire des livres, des histoires, mais à moins voilà, de vendre des millions et des millions d'exemplaires pour en vivre, ce qui n'est pas mon cas, je m'étais dit, voilà, il faut quand même que je réfléchisse à un projet à côté qui soit cohérent et qui puisse me permettre voilà, de me dégager un petit salaire. Et c'est là que j'en suis venue à faire une rencontre étonnante, celle d'une marionnette qui s'appelle Morissette. T'en as peut-être entendu parler.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et qui raconte des histoires, donc.
C'est ça. Et donc, elle écrit des histoires, parce que,
Elle écrit
voilà,
des histoires.
pour la petite histoire, Morissette est une marionnette muette, donc ce qui me permet de, voilà, de sensibiliser les enfants tout de suite sur la différence. Ça veut dire quoi être muet? Et donc, voilà. Donc, Morissette, elle est muette, elle est née comme ça, elle ne peut pas parler, mais pour autant, elle a envie de raconter plein de choses. Et donc, la solution qu'elle a trouvée, donc elle ne parle pas la langue des signes française, non, sur l'île où elle a grandi, elle n'a pas appris ça, mais elle a trouvé une autre alternative, hein, c'est d'écrire. Et donc, après, moi, je lui prête ma voix pour pouvoir conter les histoires en spectacle, en animation, voilà, auprès des enfants, de la maternelle, au primaire, et puis aussi au collégien, sur des domaines de sensibilisation bien précis.
Alors, sur quel domaine de sensibilisation, justement?
Alors, bah, voilà, en fonction de qui je suis, de tout ce que j'ai vécu, voilà, dans mon enfance, de mon histoire avec Florent, voilà, et ben forcément, le domaine de sensibilisation principale, c'est celui de la différence. Et
Oui.
après, voilà, il y a d'autres domaines aussi qui me tiennent profondément à cœur, de sensibiliser sur le harcèlement, parce que voilà, quand j'étais enfant, j'ai connu le harcèlement à l'école primaire. Mais voilà, il y a d'autres domaines aussi qui me tiennent profondément à cœur, qui sont liés à la communication. Donc voilà, apprendre des astuces pour communiquer autrement, pour apprendre à se dire les choses qui ne sont pas faciles. Voilà, donc pour ça, par exemple, là, je me suis formée à la communication non violente, donc une pratique voilà, à laquelle voilà, j'adhère, que j'essaie de pratiquer au quotidien. C'est comme une nouvelle langue, mais voilà, c'est des astuces qui aident vraiment à se concentrer sur nos besoins, sur voilà, ce dont on a besoin, sur apprendre à s'écouter et à apprendre à exprimer pour vraiment bah, pouvoir nommer, être plus facilement entendu voilà, par l'autre, pour pouvoir voilà, effectuer des demandes, tu vois, pour éviter d'utiliser le fameux le tu qui tue, là, le tu qu'on
Oui,
utilise quand il y a un truc
dire
qui va pas.
comment on se sent nous, c'est ça?
Ouais, c'est bah ouais, par exemple, t'aimerais bien être écouté, mais tu vas dire à l'autre, oh, tu m'énerves, tu m'écoutes jamais, quoi. Alors que à la place, voilà, tu pourrais dire, bah, là, j'ai besoin d'être écouté. Est-ce que tu serais d'accord pour m'écouter, tu vois? Et
Tout à
quand
fait.
tu utilises cette version-là, bah, l'autre va plus facilement t'entendre plutôt que si tu l'assassines direct. Oh, tu me saoules, tu vois. Et donc c'est plein de petites astuces comme ça, mais qui paraissent simples. Après, au quotidien, faut essayer de les utiliser.
Et parfois, c'est simple avec certaines personnes et avec d'autres, c'est plus compliqué.
Voilà, c'est ça. C'est alors après, voilà, ça guide, ça amène vers la connaissance de soi, tu vois, d'apprendre voilà comment tu fonctionnes, d'apprendre à reconnaître tes émotions. Et c'est toutes ces choses-là en fait vers lesquelles je guide les enfants, en fait, voilà, vers la connaissance de soi, l'écoute de ses émotions. Et puis bah derrière, comment est-ce qu'on peut aussi développer la confiance en soi, comment est-ce qu'on peut nourrir l'estime de soi. Donc, des concepts qui sont compliqués à comprendre, parce que même encore à l'âge adulte, on peut confondre confondre ce concept de confiance en soi, d'estime de soi. Donc du coup, avec Morissette, on réfléchit, tu vois, à imager et à rendre plus facilement compréhensibles ces concepts aux enfants pour qu'ils comprennent l'importance de s'en saisir et puis de s'en occuper. On fait ça donc à travers les histoires, mais après aussi de manière ludique, tu vois, avec des jeux, des expériences, des débats philosophiques.
Pourquoi, à tes yeux, c'est important de communiquer sur ce sujet des différences et du harcèlement dès le plus jeune âge?
C'est important pour moi parce que les bases, elles s'apprennent le plus tôt possible, et aussi parce que les enfants, ils ont un regard neuf sur la vie, ils ont un regard neuf sur tout ce qui les entoure, et plus tôt on pourra les amener à se questionner sur ces questions de tolérance, de différence, et je suis convaincue que c'est comme ça qu'on va réussir à entretenir un monde dans lequel il fait bon vivre tous ensemble, en fait. Tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on vit dans un schéma où prône la compétition, la comparaison, tous ces vieux schémas qui sont instaurés, qu'on porte dans notre sang, malgré nous. Et je suis convaincue que toutes ces difficultés, toutes ces souffrances qu'on peut rencontrer, tout ça, c'est issu de problèmes de communication, de problèmes d'existence liés à l'estime de soi, toutes ces choses-là. Et plutôt, on pourra équiper les enfants avec tous ces outils, ou ne serait-ce que sensibiliser, de pouvoir évoquer en fait qu'il y a d'autres façons de vivre, d'autres chemins possibles, tu vois, sans avoir à imposer une façon de penser, mais juste éveiller. Et je suis convaincue que ça sera que du plus, en fait, que du plus, et que ça évitera bien des souffrances.
Et je pense que c'est important de dire que c'est malgré nous qu'on fait les comparaisons, tout ça, parce que c'est très vrai.
Oh oui, ça...
Quels sont les outils que tu utilises dans tes spectacles, dans tes ateliers? De quoi tu te sers pour créer tout ça?
Oh là, j'en ai beaucoup. Alors déjà, je crée toujours une ambiance, donc j'ai des décors très, très colorés, parce que ça, c'est important pour moi, parce que je travaille sur des sujets qui ne sont pas forcément faciles. Et donc oui, j'utilise principalement des décors pour créer une ambiance et en fait annoncer un peu la dynamique dans laquelle on va se positionner, parce que comme ce sont des sujets qui sont compliqués, de préciser en fait la manière où on va aborder les choses, plutôt de manière positive, pour aller de l'avant et pas pour chercher à se morfondre, à culpabiliser, ou non. C'est donc déjà les décors, c'est hyper important pour moi, ça va être très très coloré, et puis il va y avoir des messages un peu partout pour que chacun puisse se saisir, en fait, parce que puisqu'on est tous différents, il va y avoir des personnes qui vont être visuelles, auditives. Et puis après, j'ai d'autres outils que je vais utiliser pour, par exemple, imager un sujet de sensibilisation qui me tient profondément à cœur, qui est lié du coup à la communication. Ça va être autour du pouvoir des mots. Et donc, c'est comme ça que je me suis saisie de quelque chose que Dolto évoquait. En fait, ce sont les mots cailloux qu'elle utilisait pour parler de ces mots qui font mal au cœur, hein, qui n'aident pas à grandir. Et je me suis dit, c'est chouette, c'est une belle image, mais il y a quoi en face, en fait? Et tu vois, je trouvais rien, je trouvais pas quelque chose qui existait. Donc c'est comme ça que je me suis dit, tiens, il faut que j'image le parallèle, quoi, parce que c'est cool, on parle du négatif, des choses qui font mal au cœur, mais
parler en fait, du positif.
Exactement, il faut qu'on parle du positif aussi. Et c'est comme ça que avec Morissette, on a eu l'idée de créer en fait les mots bisous. Donc tu vois, l'image d'un quand tu t'es fait mal quelque part, tu fais un bisou magique, c'est né comme ça, c'est venu, l'inspiration, tu vois, il fallait que ça rime avec le « ou », donc c'était bisous. Ça aurait pu être chou, on va faire une extension. En tout cas, on a fait naître avec Morissette ce concept des mots cailloux, mots bisous, pour vraiment aider les enfants à imager.
À visualiser.
Exactement, à visualiser en fait les mots qui sortent de notre bouche, en fait, que ces mots ils peuvent avoir un pouvoir magique, le pouvoir d'aider l'autre à grandir, à lui faire du bien, ou au contraire, on peut lui abîmer le cœur, ou à contrario aussi envers soi, les mots qu'on utilise, c'est vraiment... Et ça c'est un outil qu'on utilise à chaque fois. Maintenant, c'est vraiment une signature C'est partout où on va, les enfants, ils sont sensibilisés au mot caillou, au mot bisou. Et c'est vraiment, enfin, c'est trop chouette, quoi, parce que maintenant, dans de nombreuses écoles françaises, ils utilisent ça, en fait, à l'école. Ils utilisent ce concept des mots
C'est
bisou,
trop
des
bien.
mots caillou. Et ah ouais, mais ça, c'est génial, en fait. C'est clair de se dire que, bah, que voilà, ouais, d'imaginer quelque chose. Et que ça serve, ça apporte, bah c'est super. Donc du coup, voilà, avec Morissette, on s'est pas arrêté là. On a réfléchi à d'autres images, d'autres concepts. Et c'est comme ça, par exemple, qu'est née l'histoire de la coccinelle, en fait, pour réussir à définir l'estime de soi auprès des enfants. Pour qu'ils comprennent voilà l'importance bah, que voilà l'estime de soi c'est l'image qu'on a de nous et donc on peut pour ça imaginer qu'on a une petite coccinelle à l'intérieur de nous et que cette petite coccinelle eh bien il faut qu'on en prenne soin par les mots bisous et c'est comme ça qu'elle va gagner ses petits points noirs mais à
D'accord.
contrario si tu lui dis des mots cailloux eh bah, elle va perdre ses petits points noirs ou si les autres te disent des mots cailloux elle va perdre aussi des petits points noirs et puis bah une coccinelle sans petits points c'est pas une coccinelle et donc voilà. Du coup, de sensibiliser, tu vois, bah voilà, de prendre soin de sa coccinelle, c'est important parce que l'estime de soi, enfin, je l'ai compris très très tard, mais l'estime de soi, c'est la base de tout, quoi, du bien-être, de la connaissance de soi, parce que plus tu seras OK avec la personne que tu es, voilà, à t'accepter tel que tu es, avec tes richesses et puis avec tes vulnérabilités aussi, eh bien, mieux tu te sentiras dans ta peau et plus derrière tu seras en confiance, tu pourras voilà essayer, tu vois. C'est vraiment ça, l'estime de soi, c'est hyper important et c'est ce que j'essaie de transmettre aux enfants d'en avoir conscience pour en prendre soin et puis de leur communiquer des petites astuces pour ben, voilà dans le but de nourrir cette estime de soi comme d'éviter de se comparer aux autres en fait parce que on nous compare tellement mais et qu'on en vient à se comparer nous-mêmes aux autres, en fait, en regardant, oh, regarde, fou, voilà, elle est mieux que moi, il a fait ci, il a fait ça, tu vois, j'ai l'impression de me sentir vraiment bah, nul, moins intéressant, moins important, et quand on agit comme ça, bah, ça nous abîme le cœur, ça nous abîme l'estime de soi, et c'est ce
Oui.
que j'essaie de transmettre aux enfants, donc là, par le biais d'histoires contées, et donc voilà, après. On a tout plein avec Morissette de panels, tu vois, d'outils, mais toujours de chercher à imager en fait ces concepts-là qui sont compliqués à comprendre voilà, par les
Pour
mots,
tes
la théorie.
enfants,
Voilà, c'est ça. Moi, la première, ça me barbe la théorie, toutes ces choses-là.
ouais.
Alors donc, voilà, de le faire de manière ludique, quoi. Comme par exemple, toujours, c'est vrai que le pouvoir des mots. C'est vraiment, pour moi, ça me tient à cœur. Et par exemple, en atelier, même avec les plus grands, j'utilise l'exemple de la pomme et pour évoquer bah, le harcèlement et que quand voilà, tu reçois plein de mots cailloux, comprendre ce qui se passe en fait à l'intérieur de toi et comprendre que c'est l'estime de soi qui va s'abîmer, tu vois. Et c'est un exemple qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. C'est une enseignante anglaise qui avait eu l'idée, en fait, de voilà. Pour définir le harcèlement avec ses élèves, elle avait emmené en classe deux pommes, dont voilà deux pommes qui étaient identiques, mais il y en a une des deux pommes qu'elle avait un peu, tu vois, maltraitée avant, mais sans la cogner trop fort, ça se voyait pas de l'extérieur, mais elle l'avait quand même abîmée. Et donc elle est arrivée en classe et puis elle avait dit aux enfants, voilà, je vais vous parler de ces deux pommes-là. Et donc cette pomme, la première, elle en faisait l'éloge en disant combien elle l'aimait, etc. Et puis l'autre, bah, tout le contraire, quoi. Elle était vraiment bah, répugnante, repoussante, enfin, tout ce que tu veux. Et elle a demandé aux enfants d'agir de la même façon. Donc, de dire voilà, des mots qui abîment à la pomme pas belle et des mots qui sont merveilleux à l'autre pomme. Et donc là, après, une fois que les enfants ont fait ça, donc ils se sont vraiment défoulés, déchaînés, eh bien, elle a coupé les deux pommes en deux. Et là, c'était parlant, quoi. Il n'y avait même plus besoin de mots. Tu comprenais ce qui se passait et voilà, bah, les dégâts du harcèlement, ou ne serait-ce que, voilà, sans parler de harcèlement, mais en tout cas de ces mots cailloux que tu reçois au quotidien, que bah, ça abîme, quoi. Après, voilà, j'aime à rappeler que cette idée-là, elle ne vient pas de moi, qu'elle est, voilà, elle
Oui.
existe déjà. Mais quand quelque chose fonctionne comme ça, et que, bah voilà, des fois, faut pas, enfin voilà, il faut transmettre ça. C'est tellement important parce que les enfants, ils ressortent de là et ils font, ah ouais, d'accord, ok. Et là, il se passe quelque chose en fait dans leur tête, et après, il se passe quelque chose dans leur comportement. Et c'est irrévocable, vraiment.
Oui, parce que
Donc.
en fait, c'est un peu trop simple de dire le harcèlement, c'est pas bien, quoi. Parce que si on nous
Voilà.
explique pas avec une image comme la pomme.
Exactement, bah, hein, les belles paroles, c'est bien beau, hein, mais qu'est-ce qu'on
C'est
en fait
ça.
après? Ça rentre par une oreille et ça ressort rapidement par l'autre. Et tandis que dès lors qu'on. C'est pour ça que voilà, moi, ça me tient à cœur d'utiliser des images, d'utiliser
Oui.
des émotions, parce que c'est comme ça. C'est en vivant, en fait. En vivant l'expérience que tu vas ancrer le message, tu vas ancrer voilà, ce dont tu veux te souvenir, mais en tout cas, ça va te marquer, quoi. Pas comme une information théorique qui. Voilà, que tu pourrais
Oui, bon
retenir
bah
parce que
c'est
tu l'as
sûr que
appris
s'ils nous
en
disent
master. Ou.
que un enfant sur 10 est harcelé à l'école, ça va pas forcément faire écho bah aux 9 qui sont pas harcelés en fait, tout simplement.
Voilà, exactement.
Et justement, les retours des établissements scolaires où tu as pu faire tes spectacles, tes ateliers, est-ce que c'est encourageant?
Ouais, bah oui, c'est très encourageant, oui, c'est même émouvant de voir que, bah, que ça apporte et que derrière, alors ça apporte de par les sensibilisations parce que du coup, on amène des outils, on amène des compréhensions par le biais des histoires et que du coup, derrière, les enseignants peuvent s'en servir et pour continuer à imager, continuer à sensibiliser. Et derrière aussi, c'est émouvant parce que ça débloque des situations de mal-être, des situations de harcèlement, des situations voilà, de choses qui peuvent se passer à la maison, ou en tout cas, ça libère la parole. Et en effet, c'est. Il en découle des fois des choses pas faciles, mais à la fois, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça apporte aux enfants. Et ça, c'est pour ça, ouais, c'est juste émouvant. Ouais.
Et ton travail, il a été reconnu d'utilité publique par le ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que tu es référencé?
Alors oui, donc en fait, oui, je suis référencée et spécialisée dans les domaines pour lesquels voilà, j'interviens. Et donc en fait, ça veut dire que bah, voilà, mon travail apporte voilà, donc il y a une reconnaissance hein, du travail et que donc ce travail a été vérifié par le ministère de l'Éducation nationale, ce qui peut me permettre aussi d'intervenir plus aisément dans le public. Parce que voilà, dans le public, c'est un peu, voilà, c'est comment dire, ça fonctionne forcément bah, différemment voilà, du privé, mais voilà, ils sont un peu plus contraints, c'est-à-dire que si pour des projets de plus longue durée, là, voilà, si l'intervenant n'est pas agrémenté, c'est pas possible. Pour un spectacle, oui, c'est possible, mais sinon, un projet de plus longue durée, il faut absolument que la personne soit agrémentée parce que on peut être amené à être seul avec les enfants et donc voilà,
Oui.
il faut être sûr que l'intervenant est fiable de ce qu'il raconte parce que bah, tu peux avoir des sectes qui essaient de rentrer là-dedans, tu vois, d'endoctriner les enfants ou voilà, de dire des choses. Donc, voilà, c'est vraiment d'un point de vue, en tout cas, on va dire un label sécurité aussi, quoi. Donc après, voilà, il faut savoir que ça n'a pas été facile non plus. J'ai mis un an et demi à construire le projet et pour voilà, me lancer. Et quand j'ai eu les feux verts, donc une aide notamment pour pouvoir lancer le projet, et ben en fait, deux jours après, on vivait notre premier confinement, tous ensemble en
Deux
France.
jours après, mon
Deux jours
Dieu.
à, voilà,
Ah
jour pour jour. En fait, j'avais une première de spectacle qui était, bah, voilà, qui était programmée un 21 mars. Et en fait, voilà, bah, tout simplement, on a été confinés, quoi. Donc, du coup, ça a été annulé. Et puis, bah, bim, quoi. Puis, tout ce que j'avais préparé, tout est tombé à l'eau.
ça, ouais.
J'ai
Oh.
jamais pu me lancer pour. Ça a été compliqué.
Ça a dû être très compliqué à vivre pour toi, oui.
Ouais, c'était compliqué parce que surtout quand je touchais donc mon aide pour lancer mon entreprise, sauf qu'en fait, je pouvais pas travailler. Donc je pouvais donc et je pouvais pas stopper cette aide tu vois pour la reporter pas c'était pas possible donc en fait voilà elle s'est écoulée cette aide et c'est pour ça que ça a été très très compliqué parce que dès lors que j'ai pu retrouver un peu de souplesse et que j'ai pu intervenir dans les écoles, donc voilà, en me faisant vacciner, en démontrant que je pouvais voilà mettre en place des choses de sécurisées, enfin tu vois avec des grandes toiles au sol pour avoir des mètres de distance de sécurité, enfin me faire un enclos entre guillemets, tu vois, voilà pour pour rassurer et montrer que c'était possible d'intervenir. Donc voilà, il y a quand même des écoles qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'essayer de me lancer, etc. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Mais en fait, l'heure tournait dans le sens où, bah voilà, l'aide approchait de sa fin et j'avais pas pu encore vraiment me lancer. Et donc c'est pour ça que j'avais comme une espèce d'épée Damoclès, parce que ce rêve, il était là. Et en fait, pour une histoire de budget, tu vois, parce que malheureusement, je crois qu'on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche.
Oui.
Bah, j'avais qu'une trouille, c'était que je puisse pas, tu vois, permettre à Morissette d'éclore, parce que bah il allait falloir que j'arrête et que je prenne un boulot entre guillemets alimentaire, quoi. Et en fait, bah voilà, il s'est passé là en moins d'un an, il y a eu une vague, un élan, et puis aussi un élan de solidarité, notamment sur les réseaux sociaux, où. Oui. J'ai eu le soutien de plein de merveilleuses personnes, et notamment, tu vois, bah tu as interviewé Nolwenn, la maman de Colline.
Oui,
qui a été aussi d'un précieux soutien, parce que bah voilà, depuis le début, elle soutient Morissette mes corps et âme, et voilà, elle m'a aidée aussi, tu vois, en faisant des lives, en faisant découvrir l'activité, et voilà, et rien que ça, toutes ces petites choses-là, en fait, ça a été plein de graines de planter, et c'est ce qui a fait, ça met du temps, mais en fait, ça a fait un effet boom, et là, aujourd'hui, ça y est, quoi. Ça y est, avec les interventions, les directeurs d'établissement, tout le monde s'y est mis, en fait, tout le monde a répandu, bah, voilà, des jolies choses sur Morissette, sur des choses ce qui peut se passer en intervention suite à cela, et en fait, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui. Ça y est, Morissette est viable. Bon, après, bien sûr, quand on est à son compte, rien n'est jamais acquis. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle histoire qui s'est enclenchée.
Le rêve est réalisé.
Ouais, voilà, c'est ça. Comme quoi, il faut toujours, il faut s'accrocher. Et des fois, on rencontre des périodes qui sont vraiment très compliquées. Et tu te dis, mais t'accumules, et je vais jamais m'en sortir. Mais en fait, mais si, il y a forcément un jour où tu t'en sors. C'est un peu comme, voilà, la vie, c'est un peu à l'image des saisons. On a besoin de toutes les saisons pour vivre, pour grandir. Et c'est pareil, voilà. Et c'est un message d'espoir, quoi, de s'accrocher.
C'est hyper inspirant ce que tu dis par rapport aux saisons et par rapport à s'accrocher. Parce que moi, je pense que j'ai vraiment vécu la naissance de Charles comme... Ouais, un peu comme un hiver, alors qu'on était en mai, et qu'aujourd'hui, je suis au printemps, en fait, après l'hiver, et que tout va mieux, tu vois.
Exactement, c'est une belle image, mais oui,
ouais.
On a besoin de cheminement, c'est nécessaire.
C'est ça, et quand je pense que ce podcast n'existerait pas sans Charles, c'est assez incroyable.
Eh oui.
Tu as aussi, donc, t'en parlais tout à l'heure, écrit le moustique trisomique, tome 1 et tome 2 pour le moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire, de ce projet d'écriture ?
Alors oui, on peut en parler. Du coup, donc c'est un projet d'écriture, hein, qui a vu le jour quand j'ai fait ma formation d'écrivain là dans l'école suisse, où voilà, bah forcément à l'entrée de la formation, on m'a dit voilà, le but c'est de réussir à cheminer pour écrire un livre, son livre. Après voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez après avec, mais en tout cas bah voilà, c'était un projet que je trouvais trop génial et que naturellement voilà, la thématique est venue comme si c'était là depuis toujours, en fait,
une évidence,
c'est ça, ouais, c'est le mot, et c'est comme ça qu'est né le moustique trisomique, où en fait j'avais juste envie d'écrire sur la différence, et j'avais pas envie d'écrire sur moi. J'avais pas envie de ça, j'avais envie de parler de mon frère, en fait. Mais au-delà de mon frère, c'était de parler de la différence au sens large et de toutes ces personnes qui sont porteuses d'une différence et qui peuvent être considérées comme, comme des personnes qui peuvent pas apporter et au contraire, en fait, c'était vraiment le but de ce livre, c'était de mettre sur un piédestal la différence et de montrer à quel point elle peut être merveilleuse et à quel point elle peut tous, mais tous nous apporter, à quel point on peut tous grandir et à quel point aussi on est tous différents et qu'en fait on a tous à s'apporter. C'est vraiment une remise en question sur la vie et le vivre ensemble, en fait. Et au travers de cette trilogie-là, eh bien, on va retrouver tous les domaines de sensibilisation qui me tiennent à cœur. Donc voilà, il s'agit du harcèlement, il s'agit du pouvoir des mots, d'astuces de communication, de la confiance en soi, de l'estime de soi. C'est vraiment, voilà, on retrouve tout ça parce que c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce dont j'ai envie de parler, c'est ce dont j'ai envie de transmettre, mais toujours par le biais, voilà, des histoires, par le biais d'anecdotes, de choses imagées. Et donc c'est comme ça qu'est née cette histoire féerique, fantastique, voilà, dans un monde où il y a des créatures magiques, et voilà, qui est un livre familial, hein, puisque c'est aujourd'hui il y a autant d'adultes que d'enfants à l'avoir lu.
J'en fais partie.
Oui. C'est une histoire en fait que j'ai pensé un peu à l'image du Petit Prince où quand tu le lis enfant, le Petit Prince, bah voilà, tu te dis ouais, c'est un livre pour les enfants, mais en fait quand tu le relis adulte, eh bien il y a cette lecture à double sens où tu
Oui.
découvres des messages, en fait, où ça t'amène à cheminer différemment. Et l'intention que j'ai essayé de faire dans cette trilogie, c'est ça, en fait, c'est que à chaque âge on puisse y trouver des messages, en fait, voilà. Et donc c'est un livre que tu peux autant lire, voilà, avec tes enfants ou seul, ou qu'un enfant, voilà, puisse lire. Tu vois, en librairie, il est vendu à partir de 8-9 ans, voilà, selon le niveau de lecture de l'enfant.
Un livre à partager, tout à fait. Et pourquoi parler d'un moustique trisomique?
Et ben en fait, ça c'est, je sais pas, c'est comme un souvenir qui me reste quand j'étais enfant. Je suis convaincue qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui chantait une chanson. Je suis le moustique trisomique qui pique. Et j'entendais tout le temps, j'arrive pas à, tu vois, je
À
sais pas, je
resituer.
sais pas, mais je sais que j'entendais cette chanson et que j'entendais Florent m'a piqué, Florent m'a piqué, parce qu'il s'est fait piquer par le moustique trisomique. Tu vois, je sais pas, il y a un souvenir autour d'une chanson
Ah oui.
et voilà, et c'est quelque chose que je peux pas retrouver, que je sais pas, mais c'est là, et en fait, c'est né comme ça, en fait. Et tout s'articulait, mais merveilleusement bien, autour de ce titre-là, parce que un moustique, t'as envie de l'exterminer, quoi. Quand un moustique
Oui,
dans ta
souvent,
chambre,
on n'aime pas trop.
oui, c'est pas possible, tu rallumes la lumière, il est où, je vais l'écraser, quoi. Et justement, je voulais un titre choc pour amener, en fait, à dépasser les apparences, à aller au-delà des apparences, à pas s'arrêter, tu vois, juste à un mot, à une image. Non, 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 à inviter chacun et chacune à dépasser ses préjugés, parce qu'on a tellement plus à gagner, purée, en apprenant à découvrir les gens, quoi, en apprenant à les connaître. Et c'est, voilà, c'est un titre choc qui a pourtant été très critiqué quand
Ah oui?
quand j'ai présenté mon projet. Eh bien, j'ai été critiquée, ouais, par ce titre-là, en me disant que alors ouais, ça a été fort, hein. Je peux te dire que
Mais
voilà.
alors, est-ce que c'était plutôt le mot trisomique ou le mot moustique?
Eh bien, les deux ont
Les
été
deux.
critiqués, et en fait, c'est ça,
D'accord.
je pense, qui m'a donné une rage et une hargne à démontrer que, bah voilà, ces personnes en question allaient voir que le moustique trisomique, il allait faire son chemin et qu'il allait piquer de manière positive. Parce qu'en effet, on me l'a dit, ça, on m'a dit, mais écrire sur la trisomie 21, mais qui c'est qui va lire ça? C'est qui que ça va intéresser, ça, sérieusement?
Eh bien, ça intéresse, ça intéresse.
Voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, c'est toutes ces critiques, et bah voilà, ça forge et
Oui.
ça endurcit.
Et justement, puisqu'il s'agit d'une trilogie, est-ce que le tome 3 sort bientôt?
Je te voyais venir. Eh bien, il sortira. Il y aura une
Il y aura
suite.
la trilogie.
Il y aura la trilogie. J'irai au bout des choses, mais je vais prendre le temps parce que voilà, le tome 1, finalement, voilà, il s'avère qu'on s'est pris le confinement, donc j'avais tout mon temps pour me consacrer à fond là-dessus, et puis communiquer, le commercialiser, tu vois, ce que je fais toute seule, hein, parce que Morissette, hein.
C'est du travail, ouais.
Voilà, c'est pas facile, et donc le tome 2, je me suis activée comme une folle pour le sortir. Donc en parallèle, tu vois, où je développais les spectacles, j'essayais vraiment de rendre le projet viable et à côté de ça, j'étais à fond dans l'écriture pour pouvoir apporter une suite. Et donc je me suis vraiment mais acharnée comme une folle et vraiment ça a été assez éprouvant, hein, vraiment très 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 éprouvant. Et en fait, quand il est sorti, eh bien j'étais hyper surprise de voir que il était pas, enfin les gens n'étaient pas au rendez-vous. Tu vois, c'est-à-dire que
Pour le tome 2.
ouais, parce qu'en fait le tome 1, quand même, c'est vrai que je l'ai pas précisé, je suis en auto-édition.
Oui.
Et en auto-édition, sortir en fait autant d'ouvrages, de republier, enfin c'est juste incroyable en fait. C'est vraiment une aventure de dingue. Et donc en fait voilà, j'étais un peu, je me reposais entre guillemets un peu sur mes lauriers pour le tome 2 en me disant que voilà tous ces gens qui avaient acheté le tome 1, même si il pouvait y avoir un pourcentage, voilà, forcément qui n'avaient pas adhéré ou qui ne voulaient pas connaître la suite, quand même tous ces gens-là,
Ils allaient acheter encore.
ils allaient reprendre quoi ce tome 2 quand même, mince, ils veulent la suite d'Olrik, de ce petit moustique. Et en fait, du coup, tu vois, j'avais pas communiqué à la hauteur de ce que j'avais fait pour le tome 1. Et voilà, il s'est avéré que j'étais assez surprise de voir que non, il s'écoulait pas comme j'avais espéré. Voilà, quand on forge des attentes aussi, ça souvent, c'est un enseignement, hein. On peut souvent être déçu derrière.
Parfois, c'est l'effet nouveauté qui n'est plus là.
Voilà, c'est aussi, ouais. Et donc en fait voilà, du coup je me dis mais mince quoi, tu vois, je me suis vraiment, je me suis activée comme une folle,
Pressée, ouais.
pressée pour répondre à la demande, et puis en fait non, les gens sont pas là quoi, et ça m'a rendu triste en fait, ça m'a rendu triste
Ouais,
et
je
je l'ai pas très
comprends.
bien vécu, et encore aujourd'hui bon voilà, il s'écoule tout doucement, mais pour être transparente, tu vois, j'ai encore beaucoup de cartons à la maison, et tout ça c'est de l'investissement financier. C'est un investissement de malade, hein, qui est considérable. Et donc, voilà, tant que ces cartons-là ne sont pas écoulés, clairement, je vais pas me réengager financièrement pour un tome 3. Parce que aujourd'hui, les livres, il faut savoir, parce que, enfin, que dessus, je gagne quasiment rien. Mais rien. Parce que il est vendu 9,90 €. Derrière, j'ai des frais de livraison qui sont élevés, mais qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de la poste, en fait.
Oui.
Et donc les gens, tu vois, voilà, forcément, quand on commande à distance, ça fait un sacré budget, ce que je comprends tout à fait. Mais tu vois, je gagne très, très peu. Et
Oui.
c'est pas, c'est vraiment, les livres, ce sont un plaisir partagé avec le public de Morissette. Hein. C'est juste pour ça qu'on le fait, parce que c'est pas possible d'en vivre, vraiment pas possible.
Par rapport au projet à venir pour les histoires de Morissette, est-ce que il y en a d'autres?
De toute façon, des projets, il y en a toujours. C'est des nouvelles histoires qui sont écrites et puis après qui sont mises en scène pour des spectacles. Tu vois, c'est toujours, il y a toujours de la nouveauté. Après, il y a pas le projet à annoncer, non. Je pense que c'est important aussi de préciser que cette histoire, cette trilogie, elle existe en livre audio.
D'accord.
Parce que justement, pour les personnes porteurs de différences ou voilà qui peuvent être empêchées de lire, eh bien il existe la version audio qui a été enregistrée bénévolement par des donneurs de voix de l'association Valentin Aüys. C'est important voilà de pouvoir le préciser, que du coup il y a vraiment cette accessibilité qui est donnée et qui me tient à cœur, parce que voilà, ce sont des bénévoles qui font ça. Et c'est juste magique en fait, voilà, c'est, tu vois, en lien avec voilà l'inclusion, le vivre ensemble, c'est vraiment une information qui me tient profondément à cœur, et je remercie vraiment ces gens qui donnent de leur temps pour permettre ceci, voilà.
C'est super, oui, en effet.
C'est vraiment une chance, enfin voilà, quand j'ai été contactée pour m'annoncer ça, enfin j'avais beaucoup d'émotions, parce que c'est quelque chose
Tu m'étonnes.
que j'aurais espéré, tu vois, pouvoir faire. Et j'avais fait les démarches pour faire le livre audio. J'avais été dans un studio d'enregistrement. J'avais commencé des. Bah, voilà, j'avais commencé en fait. Et en fait, j'ai stoppé parce que, enfin, l'investissement, tant sur le personnellement que financièrement,
Oui.
considérable. Et derrière, la logistique de distribution et tout, je me dis, oh là là, mais je m'embarque dans quoi, purée. Et du coup, je le vivais un peu, j'étais un peu triste, quoi, de pas pouvoir aller au bout de ce projet qui me tenait à cœur, de pouvoir rendre cette histoire accessible, à tous, quoi. Parce que, voilà, C'est un livre sur la différence, donc un livre qui doit pouvoir toucher tout le monde, et j'étais triste de ne pas pouvoir répondre à ça. Et donc voilà, quand j'étais
C'était une
contente,
belle surprise.
il y en a des belles.
Et est-ce que tu crois que c'est utopique de penser qu'on peut construire un monde ou inclure mieux les personnes porteuses de différences, ce serait même plus une question à se poser, quoi.
Ah bah ça. Ah bah oui, moi aussi je le veux ce monde-là. C'est pour ça que je m'active. Que je m'active, que je plante des graines chez les tout petits, chez voilà, parce que je le veux ce monde-là. Je le veux et il me tient profondément à cœur. Et notamment, voilà, il y a des choses que j'aimerais bien gommer et supprimer, comme tu vois, le petit mot là, le gogol. Ça te parle ça?
Oui, alors personnellement, c'est vrai que j'ai jamais été confrontée à quelqu'un qui aurait pu dire ça de Charles, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal à bien réagir ou à réagir tout court. Je ne sais même pas si j'aurais les mots pour répondre, tu vois.
Ouais, je comprends. C'est clair que j'ai tellement été confrontée à ça, en fait. Déjà enfant, quand j'étais du coup victime de harcèlement, donc à cause voilà, de dans un premier temps, c'est ce qui posait problème à certains enfants, c'était une dentition un peu trop prononcée. Voilà, comme je suçais mon index, tu vois, j'avais mes dents qui étaient complètement déformées en avant, et donc du coup, voilà, on me trouvait moche. Donc tous les jours, j'entendais ces mots cailloux là, dents d'âne, dents dégueulasses, tu sers à rien, t'es moche, etc. Mais quand j'entendais tout ça, j'arrivais pas, j'arrivais plus à parler, j'étais comme anesthésiée,
Tu
muette.
m'étonnes.
Mais par contre, ces enfants en question savaient que j'avais un frère handicapé, différent, gogol. Et ça, par contre, ils s'amusaient, tu vois, à me l'envoyer dans les dents. Et tous les jours, j'entendais Ah, il y a la sœur du gogol! Et à chaque fois que j'entendais ça, c'était la seule fois où j'ouvrais ma bouche et où je me mettais en colère, parce que c'est quelque chose qui me répugnait, quoi. Comment est-ce qu'on pouvait se permettre de dire du mal de mon frère alors qu'il le connaissait même pas, tu vois, et c'est clair que ouais, c'était une souffrance, et encore aujourd'hui, du coup, je l'entends ce mot, parce que
C'est vrai.
beaucoup l'utilisent, mais pour se marrer, tu vois, enfin, sans comprendre, en fait, le poids des mots et le sens des mots, en fait. Ouais, voilà, pour déconner, vas-y, t'as un gogol, tu fais ton gogol, mais derrière, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux enfants, en fait, c'est que c'est important de comprendre les mots qu'on utilise, de comprendre leur origine aussi, et de comprendre que derrière, eh bien, il y a des mots qui existent, et en fait, qui peuvent abîmer le cœur des personnes concernées, ou voilà, de leur entourage, et que voilà, ça... En tout cas, ce mot-là, il me tient à cœur d'en parler à chaque intervention. Enfin, non pas à chaque intervention, mais en tout cas dans l'atelier différence à harcèlement. Et donc voilà, j'explique l'origine de ce mot-là. Et puis bah voilà, après les enfants, et ben c'est juste qu'ils en aient connaissance, qu'ils en aient conscience, et libre à chacun après de continuer de l'utiliser ou pas. Mais en tout cas voilà, c'est important d'expliquer, d'informer, parce que si on n'explique pas, on peut pas savoir. Et c'est quelque chose,
Tout
voilà,
à fait.
qui me tient profondément à cœur, et pour lequel je milite beaucoup.
Tout à fait. Merci beaucoup, Amandine, de m'avoir accordé ton temps déjà. Merci pour ta sincérité, ton entièreté, parce que je pense que c'est ce qui te définit le mieux. Merci pour ton travail, tes initiatives et merci, juste merci. Je pense que la société a besoin de plus de gens comme toi. Hyper sensible, mais surtout vraiment entier. Merci.
Merci beaucoup Raphaël pour tes mots bisous. Tu peux pas savoir comme ça me fait chaud au cœur. Ouais, tu me vois pas là. Mais voilà, l'hypersensible que je suis est touchée, vraiment. Mais merci à toi aussi pour cette idée merveilleuse de mettre en place ce podcast et de nous donner la parole. C'est génial. Vraiment, merci à toi et continue, hein.
Mais c'était comme une évidence, comme toi. C'est fou la vie. Hein.
C'est ça. Il faut l'écouter, des fois, hein. Elle coule d'elle-même, tout naturellement.
À bientôt.
À bientôt!
Vous venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Et rendez-vous le 21 du mois prochain
pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas. Thank you.